Bonjour et bienvenue sur Pépites et Astuces, un podcast de l'Institut Transition qui vous propose de découvrir chaque mois une pratique, un outil, une méthode originale qui a permis à une association ou une entreprise engagée de répondre à ses défis. Ce mois-ci, on parle d'organisation du travail et de gouvernance sans hiérarchie et en co-gestion avec Sandy, membre de l'équipe salariée de Grappe. Grappe, groupement régional alimentaire de proximité, c'est une coopérative qui réunit des activités de transformation et de distribution d'alimentation bio et locale au niveau de la région. Plus précisément, Grappe est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Concrètement, ça signifie que, comme toute coopérative, Grappe est gouvernée par son équipe salariée, mais également par plusieurs parties prenantes, dont les activités portées par Grappe, ou toute personne intéressée par le projet de la coopérative. L'équipe salariée de Grappe, appelée en interne l'équipage, offre des services aux membres des activités associées. Ça peut être de l'administratif, du juridique, de l'accompagnement ou encore de la communication. Sandy, pour commencer, je te laisse compléter cette petite présentation de Grappe et te présenter.
Sandy, j'ai rejoint Grappe il y a plus de 5 ans sur un poste d'accompagnement informatique, donc pour les activités qui sont accompagnées par Grappe, je vais les équiper au niveau informatique, les aider dans leur utilisation des outils. Et donc Grappe, c'est un groupement d'entrepreneurs et entrepreneuses qui a été créé en 2012, qui couvre la région Rhône-Alpes. Et l'objet, c'est la production et la distribution d'une alimentation responsable. Donc on est sur de l'agriculture bio, paysanne, locale et en circuit court. Il y a environ 70 activités individuelles ou collectives dans Grappe. On est sur presque 250 personnes au total, en ville ou à la campagne, sur des métiers de type épicerie, restaurant, on a des traiteurs, des bars, des cafés, des activités de transformation artisanale, des services aux professionnels, et on a même dernièrement un groupe de personnes qu'on appelle les conseillistes, et donc qui vont plutôt faire des activités de conseil, mais sur le domaine de l'alimentation. Et donc toutes ces activités-là sont réunies dans cette coopérative pour mutualiser des services, des moyens, des ressources, des idées. Et donc il y a l'idée d'une solidarité pour vivre une aventure aussi humaine, collective. Et donc, c'est un secteur quand même qui a parfois des difficultés, donc ça permet d'être plus résilient, de se mettre ensemble.
Ok, je te remercie pour cette présentation. Alors, il faut expliquer déjà qu'au niveau global, la SIC, donc ce collectif de 250 personnes environ que tu viens de nous présenter, fonctionne selon les principes de la co-gestion et de la coopération. Alors, notamment, les instances de gouvernance, l'AG et le CA, sont composées de chaque catégorie d'associés qui coopèrent ensemble. Donc, pour rappel, ces catégories, ce sont vous, l'équipe interne, l'équipage, les activités associées qui bénéficient de vos services, et les partenaires et sympathisants. Ensuite, en plus de ce fonctionnement général, vous, l'équipage, fonctionnez également en co-gestion. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour planter le décor, vous êtes une vingtaine de personnes salariées, regroupées en pôles selon les services que vous offrez aux activités associées. Et vous êtes aussi regroupées dans différentes villes de la région. Et chacun de vous, vous pouvez, si vous le souhaitez, jouer des rôles particuliers au service de la co-gestion, comme c'est ton cas.
Donc là, je parle parce que je suis référente de cette équipe en binôme avec Maxime. On a été élus sur une élection sans candidat pour une durée de 3 ans. Et donc, en tant que référent d'équipe, on est garant de l'autogestion dans l'équipage.
D'accord. On va expliquer cela plus en détail, mais d'abord, on va répondre à une question plus générale. Quand on ne connaît pas le mode de fonctionnement sans hiérarchie, on se pose déjà la question comment et par qui sont prises les décisions. Est-ce qu'on les prend tous ensemble? Est-ce qu'on se réunit par plus petits groupes? Et aussi, la direction prend-elle des décisions? Et si oui, lesquelles?
Alors, toutes les décisions ne sont pas prises tous ensemble. On a différents niveaux de décision, et puis la direction générale prend aussi des décisions qui concernent peut-être plutôt Grappe. Dans notre modèle, on a acté que la direction générale prenait le moins possible à elle seule les décisions qui concernaient juste l'équipage. Okay. Parce qu'on estime qu'ils ont déjà beaucoup de responsabilités et aussi pour éviter une trop grande concentration des pouvoirs. C'est un petit peu ça l'autogestion, c'est garantir le fait que les décisions se prennent au plus proche des personnes concernées et que les pouvoirs, entre guillemets, sont répartis et partagés sur des mandats tournants notamment. Et donc dans l'équipage, ce qu'on appelle autogestion, parce qu'en fait on se rend compte en discutant avec d'autres acteurs qu'il n'y a pas vraiment une définition de l'autogestion à proprement parler. Il y a beaucoup de discussions, mais en tout cas nous ce qu'on appelle autogestion, c'est le fait d'être autonome et libre, mais dans un cadre qu'on a décidé collectivement. Et donc ce cadre, c'est les mandats tournants, c'est le fait que les tâches aussi peuvent tourner, elles ne sont pas liées à une personne, elles sont liées des fois à un rôle plutôt. Qu'on va être plutôt dans la coordination que dans la hiérarchie. Mmh. Et effectivement, on prend les décisions au plus proche. Tout ça, ça suppose qu'on se fait confiance et que l'information circule bien. On a besoin que les gens soient formés et informés. Quoi d'autre ?
Du coup, concrètement, donc, toi, tu es référente d'équipe. Oui. Vous êtes combien sur les 23 à occuper ce poste de référent d'équipe ?
On est deux.
Donc, c'est un binôme.
Ouais, c'est un binôme.
Et tu disais que tu as été élue à une élection sans candidat.
C'est ça.
C'est ça. Donc ça se déroule quand et comment ?
Ben, on a notre séminaire d'équipe une fois par an.
Oui.
Et donc quand il arrive le temps de renouveler le binôme de référent d'équipe, on prend un temps spécial avec une personne externe qui vient faciliter et animer l'élection sans candidat. Et donc, comme toute élection sans candidat, il y a les petites étapes. Donc, on fait émerger des noms, non pas de personnes, mais de binômes déjà. On imagine deux personnes.
Oui.
On a un petit cadre, hein, il faut que ce soit deux personnes qui ne soient pas dans le même pôle. On aime la mixité de genre pour pas que ce soit. Parce qu'il y a quand même un gros volet prendre soin dans cette mission. On prend soin des personnes, on écoute les personnes qui sont en difficulté, donc pour pas que le care soit associé forcément à une personne féminine, on aime bien qu'il y ait, c'est important pour nous qu'il y ait les deux.
Ok.
Voilà, donc on fait émerger les noms, puis ensuite on discute un petit peu des contraintes, c'est pas seulement on n'est pas forcément sur les compétences, on essaye de faire émerger un binôme qui pourrait, qui nous semble bien, et pas forcément le meilleur, ou le plus, ceci ou cela, en tout cas, voilà.
Oui, c'est intéressant de dire que quand on prend des décisions tous ensemble, on ne prend pas nécessairement la meilleure décision, mais on prend la décision la plus appropriée et qui convient au plus grand nombre.
Oui.
Donc ça commence dès l'élection du binôme de référent.
Ouais.
Ok, super.
Et donc, on s'assure qu'il n'y ait pas d'objection.
Super.
Ça, c'est important. Voilà.
Et ça, c'est important de manière générale pour fonctionner en autogestion ou en gouvernance partagée. Et donc, vous êtes élue pour un mandat de
3 ans.
3 ans. Oui. Super. Ensuite, comment ça se déroule j'ai envie de dire au quotidien, en tant que référent d'équipe et puis après en tant que membre classique de l'équipage.
Je vais commencer dans l'autre sens. En fait, un membre classique de l'équipage, il a sa fiche de poste et donc il est autonome pour réaliser sa fiche de poste. Mmh. À ça, on rajoute du temps de vie d'équipe. Et du coup ça c'est important justement dans le cadre de l'autogestion, mais je pense que c'est important aussi dans tout modèle, hein. Alors il y a les temps informels type un petit déjeuner pour fêter ceci ou cela, mais il y a aussi tous nos temps collectifs sur lesquels on s'organise, où on prend des décisions. Il y a aussi des petits groupes qui se forment pour sur ce qu'on appelle les groupes de travail ou alors des groupes spontanés. Là, par exemple, ce matin, il y a un groupe de 3 personnes qui a refait la salle de réunion. et donc, voilà, quand il y a des choses à faire, on cherche des volontaires. Donc, sur la base du volontariat, on peut adhérer au groupe de travail qui travaille sur notre charte des salaires, qui est sans arrêt en évolution, ou un groupe de travail sur nos conditions de travail ou sur comment les rythmes de travail ou le télétravail, un petit peu, on questionne un petit peu ces choses-là en continu en fait quand on sent qu'il y a un sujet. N'importe qui peut lancer une idée de groupe de travail et à ce compte-là on le valide en AG et des volontaires se proposent.
Et si je comprends bien, on peut par exemple appartenir au groupe télétravail, temps de travail, sans faire partir nécessairement du pôle social de Grappe.
Ouais.
Voilà. Donc c'est déconnecté de ses compétences professionnelles classiques. On peut venir réfléchir et prendre des décisions sur tous les sujets finalement qui nous intéressent.
Oui, puis après il y a des groupes de travail où on va dire là ce serait bien qu'il y ait une personne du pôle social ou une personne de chaque pôle. Ou, en tout cas, on peut aussi, quand un groupe de travail naît, on donne un petit peu, on le cadre un petit peu. Quoi.
Bien sûr.
Pour pas non plus que ça prenne trop de temps ou que ceci ou cela.
Ok.
Il y a aussi des groupes de travail au niveau de la coopérative. Par exemple, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Prendre Soin.
Oui.
Qui est même devenu un cercle, Prendre Soin, maintenant, dans notre gouvernance.
Donc ça, c'est avec les 250 personnes.
Ouais. Donc, okay. On a des personnes des activités et des personnes de l'équipage qui, mm-hmm. qui animent, enfin, qui font vivre ce groupe. Et puis après, on a des temps aussi sur les bureaux, par exemple. C'est habituellement, ici, on fait une journée de travaux dans les bureaux par an, par exemple, mm-hmm. des choses comme ça. Et après, à ça, on peut rajouter des mandats. Et donc là, c'est des mandats plutôt avec des élections. Donc, il y a le mandat de référent d'équipe, il y a le mandat de DG. Donc, on a 3 co-DG chez Grapp. Donc là, aujourd'hui, il y a des entretiens pour une élection de la 3e personne pour rejoindre la co-DG, par exemple. Mmh. Et puis, il y a le conseil d'administration qui est composé de personnes d'activité qui ont été élues en AG de Grapp, mmh. et puis de personnes aussi, enfin on a une personne qui nous représente là de l'équipage, et puis on a la DG aussi qui est au CA.
Ok. Et la SIC, elle a une AG par an,
oui,
c'est ça?
Une oui. grosse AG par an. On a 2 séminaires, on a un séminaire tout Grapp en juin, mmh. et puis en février, janvier, février, mars, à peu près premier trimestre, chaque département, on appelle ça nos territoires, quoi, chaque territoire de Grapp. Fait un séminaire local pour plus faire fonctionner les activités qui sont proches entre elles,
okay.
Organisé par les animateurs et animatrices de territoire. Chaque territoire a un binôme aussi.
Ok. Très bien. Donc là, on va revenir à l'échelle
oui.
de... Non, mais c'est vraiment intéressant. Et puis de toute façon, c'est aussi votre activité qui fait qu'il faut passer d'une échelle à l'autre, ouais. Continuellement, j'imagine, même au quotidien. Donc, si on revient dans ce que moi, j'appelle l'équipe salariée ou l'équipage, on a compris comment ça fonctionnait, donc, avec les groupes de travail sur des sujets particuliers. Est-ce qu'il y a un rituel, une réunion? Donc, tu disais, bien évidemment, on a besoin de faire équipe. Mais est-ce que, du fait de l'autogestion, il y a des temps particuliers et à quel... À quel rythme? Oui, à quelle fréquence?
Récemment, là, on a mis en place ce qu'on appelle un cercle général.
Oui.
Donc, ça fait plusieurs mois. Là, toutes les 2 semaines, on fait en sorte que ce soit tournant, mais il faut une personne ou 2 pour les groupes de chaque pôle qui soit là, plus une personne de la DG. Et tous les membres de l'équipe ont pu, dans les 2 semaines, mettre des sujets à l'ordre du jour. Mmh. Et on traite ces sujets, non pas pour aller au fond du sujet, réfléchir, construire, etc. Mais pour faire ce qu'on appelle une garde de triage, on va dire qui va prendre en charge,
okay.
qui s'assure de faire redescendre l'info, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cercle général. Ça permet aussi de fluidifier nos relations, notamment parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes bureaux. Donc on a besoin aussi de faire circuler des informations.
Ah oui, donc ça, parce que donc pour préciser, vous avez des bureaux ici à Lyon,
oui.
mais également...
À Chambéry, à Die, à Saint-Étienne, à Clermont. N'oublie pas, je crois. Et bientôt à Valence.
Bientôt Valence, voilà. Ouais, exactement. Oui, donc vous avez besoin de vous réunir tous ensemble dans des temps consacrés.
Oui, alors c'est très coûteux de se réunir tous ensemble. Une demi-journée fois 23 personnes, ça
bien
fait
sûr.
Beaucoup. Donc ça, on le fait pas tout le temps. On a notre séminaire, donc là, par exemple, on a 2 jours de séminaire en septembre, mm-hmm. Où on est tous ensemble. On a 3 AG par an, dont une qui est sur le séminaire, donc... Le
oui.
séminaire de 2 AG, on va dire, où on est tous mm-hmm. ensemble. Après, on a des temps de régulation d'équipe, donc 2 fois par an, où on se retrouve sur une journée. Bon, maintenant qu'on est très nombreux, on est obligé de faire en 2 demi-journées, donc on fait un tirage au sort. On a une moitié de l'équipe le matin, une moitié l'après-midi, où là, on n'a pas d'ordre du jour, mais on va essayer un petit peu de faire émerger les tensions qu'on peut ressentir individuellement ou collectivement pour... pour déjà qu'elle soit nommée et puis qu'on essaye de de pas attendre que ça s'envenime, mais en tout cas de mm-hmm. c'est pas l'endroit non plus où on traite les choses, mais en tout cas dire que ça existe et puis verbaliser et puis commencer un petit peu à discuter quand même dessus, et notamment, et c'est aussi là où on peut se féliciter, dire ce qui va bien. Donc on a ça, et puis ensuite on fait quand même des entretiens individuels, non pas dans l'idée de noter les gens ou de donner des objectifs, etc., mais un petit peu pour prendre le pouls chaque année et que chaque personne se voit évoluer. Mm-hmm. Et on fait une restitution anonymisée pour une fois par an, ça. Donc là, on est en grand groupe aussi.
Tous ensemble.
Tous okay. ensemble pour dire un peu quelles sont les tendances dans l'équipe. Et potentiellement, c'est là aussi où on peut voir un besoin d'émergence d'un groupe de travail sur un sujet qui là commence à devenir important pour l'équipe. Ou, voilà.
Ok. Et qui anime ces entretiens professionnels ou annuels?
Eh bien, on a fait le choix d'avoir une formule mixte. Donc, les personnes peuvent choisir soit de suivre leur entretien avec une ou un président de GRAP.
Ok.
Donc sur les trois, on a une coprésidence de trois personnes, comme on a une co-DG de trois personnes. Okay. Donc sur la présidence, c'est des gens des activités qui ont été élus. Et donc il y a trois personnes, et sur ces trois personnes, on va sélectionner une des personnes qui est volontaire pour faire les entretiens individuels, et donc il va faire à peu près la moitié de l'équipe. Donc ça, c'est si on a besoin d'une personne un peu extérieure à l'équipe pour confier. Et sinon, un ou une référente d'équipe qui va faire l'autre moitié de l'équipe.
Super, et bien ça nous mène justement aux missions particulières du référent d'équipe. Donc là, on vient d'en nommer une. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi assumer quand on fait partie de ce binôme?
Tous les temps collectifs, en gros, toute la vie de l'équipe, les temps collectifs, on les anime.
Okay.
On fait partie de chaque groupe de travail, il y a au moins un ou une référente d'équipe pour un petit peu être les oreilles aussi, pour voir un petit peu comment ça se passe. On a une grosse partie de prendre soin, donc chaque personne qui se sentirait pas très bien ou se poserait des questions pour elle ou pour un collègue d'ailleurs, peut venir aussi avoir un rôle d'alerte et donc peut nous saisir. On a du temps de travail qui est dédié à ça, donc en fait ça rend légitime le fait de nous interrompre dans nos tâches.
Et c'est vraiment important parce que ça permet aussi que ça fonctionne.
Oui, là on a voté qu'on avait jusqu'à 0,2 TP par personne, donc ça fait 0,4 en tout, qui sont dédiés à ça. Donc au moins ce serait un jour par semaine.
Voilà ce que j'allais dire. Merci pour la traduction. Donc ETP c'est équivalent temps plein.
Voilà, c'est
super.
Ça,
donc un jour par semaine.
Oui, dans les faits on est un petit peu moins parce que jusqu'à maintenant c'était 0,1. Et là, on a grossi pour dire que vraiment, c'était une priorité pour nous.
Ok,
donc,
super.
Pour nous laisser le temps de...
Donc, ça va monter progressivement, peut-être.
Au plus l'équipage grossit, au
bien
plus
sûr.
Potentiellement, il y a besoin de temps pour ça. On intervient aussi sur les recrutements. Il y a deux phases. Il y a la phase 1 qui est gérée par le pôle, qui est autonome pour ses recrutements. Enfin, il y a l'équipe à valider le recrutement.
Oui.
Parce que bon, si on a plusieurs pôles qui ont besoin d'un recrutement et qu'on n'a pas le budget, on est obligé de faire un arbitrage. Donc, ça, c'est au niveau de l'équipe.
Donc, les 23, vous choisissez.
Non, pas les 23, on fait ce qu'on appelle une cellule d'embauche. Donc, où il y a une personne de chaque pôle, par exemple. Ça, c'est encore un peu en construction, cette histoire de cellule d'embauche.
Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre toutes les décisions ensemble. En fait, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est peut-être une idée reçue qu'on a sur la gouvernance partagée. Donc là, on crée une cellule d'embauche. On prend une décision. On va pouvoir recruter, par exemple, au pôle comptabilité.
Exactement.
Et après, donc ?
Le pôle compta gère tout ce qui concerne le fait de poster l'offre, de recevoir les personnes, sélectionner les profils, etc.
Donc,
ils font la première phase, le premier entretien, qui est un petit peu où on va regarder que la personne, elle est apte à faire le métier ou à apprendre. Parce que très souvent, on prend des gens aussi qu'on sent capables d'apprendre, qui savent
super
faire tout. Et le deuxième entretien est mené plutôt par les référents d'équipe. La plupart du temps, enfin, il faut au moins un référent ou une référente d'équipe. Et là, on va rechercher chez la personne sa compatibilité avec le fonctionnement en autogestion, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à tous les caractères.
Bien sûr.
Et aussi grave, quoi, le fait d'avoir une sensibilité pour l'alimentation bio-circuit court.
Évidemment.
Pour, enfin, il y a un côté très militant quand même aussi, le fonctionnement horizontal, etc. On vérifie que la personne, elle sera assez autonome sur son poste et que ça ne la mettra pas en difficulté.
Oui, je pense que c'est important de dire qu'il faut que l'équipe fonctionne et aussi que chaque personne soit à l'aise avec ce fonctionnement qui est quand même particulier. Donc, vous vous en assurez au moment du recrutement. Les limites, c'est-à-dire que si finalement pour une personne fonctionne difficilement, est-ce que vous avez des méthodes pour... tu as dit que vous avez beaucoup de prendre soin, mais après, est-ce que ça peut être réorganiser le travail dans un pôle ou comment on fait au quotidien quand ça dysfonctionne ou quand c'est un peu plus compliqué?
Déjà, il y a beaucoup de bienveillance d'une manière générale et d'écoute. Et c'est quand même, pour une personne qui n'a jamais vécu un fonctionnement en autogestion, il y a un gros temps d'observation, en fait. Enfin, moi, par exemple, c'est ma première expérience d'autogestion. Donc, au début, j'avais très fort en moi les réflexes de ma vie d'avant, qu'en plus j'étais dans la fonction publique, donc hiérarchisée, quoi. Et du coup, comment dire, on a des automatismes de ce fonctionnement-là. Et bon, moi, ça ne me faisait pas trop souffrir, par exemple, de ne pas avoir de manager qui me dise si c'était bien ce que je faisais ou je sais pas quoi. Et en plus, on a une culture un peu quand même dans l'épaule de... Enfin, en tout cas, on essaye. Quand on voit que la personne a fait quelque chose de chouette, on le dit, quoi. Oui. Donc, ça permet quand même de... On essaye de se parler des choses.
D'avoir des retours et de la reconnaissance, ouais, c'est important.
Et après, ben, en régulation d'équipe, par exemple, on peut dire que ce n'est pas facile de ne pas avoir... ce feedback, ou avec les référents d'équipe, quand on intègre GRAP, on a des étapes. Déjà, sur les 3 premières semaines d'arrivée, on va lire, on a une librairie, on appelle ce qu'on appelle ça librairie, mais en gros, on a des fiches sur notre fonctionnement sur un site internet, c'est notre wiki un peu. Et donc, on lit avec la personne tout notre fonctionnement, comment on fait pour les heures sup, comment on fait pour les congés, pour les... le télétravail, un petit peu toutes les règles qu'on s'est données et qu'on a tout ce qui a été voté dans nos AG, tout ce qui est propre à notre équipe, on le lit ensemble pour pouvoir répondre aux questions, etc. Donc pour que ce soit tout bien clair et fluide. Et ensuite, il y a un rendez-vous à 1 mois, 3 mois, 6 mois où on va vérifier comment la personne se sent tout d'abord dans son pôle, puis ensuite dans l'équipe, puis dans la coopérative. Enfin, on sent bien qu'il y a l'ouverture, elle se fait petit à petit, quoi.
Tout à fait.
D'abord, on prend son poste, quoi. Donc, on va déjà être sur des tâches opérationnelles, etc. Et puis après, on va s'ouvrir petit à petit, on va comprendre un peu comment ça fonctionne, les prises de décision, tout ça. On va peut-être avoir envie de rejoindre un groupe de travail, de suivre des formations, ceci, cela. En tout cas, il y a de la matière, il y a des outils. Mais après, bon, c'est arrivé qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec l'autogestion. Où on peut pas dire qu'on s'est trompé, mais en tout cas, on a essayé, puis ça ne l'a pas fait, et en fait, faut pas le vivre comme un échec. La personne est quand même contente de son... Enfin, généralement, j'ai pas de souvenir de personne qui soit partie en claquant la porte, quand même.
Oui, on peut avoir essayé, et puis ça fonctionne pas, et c'est OK.
Ouais.
Et on voit donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui se construit avec une intégration des personnes et un soin au quotidien pour que cette autogestion fonctionne.
On a une espèce d'image de... On a des personnes qui arrivent dans le GRAP, dans l'équipage, pardon, et qui sont déjà très entrepreneurs dans l'âme, qui sont très autonomes, qui ont déjà vécu ça avant. C'est beaucoup le cas, par exemple, au pôle accompagnement, où souvent, on prend des personnes qui ont déjà monté une boulangerie, tenu une épicerie, etc., parce qu'ils vont accompagner ce type de profil. Donc, c'est bien si... Donc, ces gens-là, généralement...
sont très à l'aise.
L'autonomie, ils connaissent bien. Et puis, on a des personnes qui arrivent et qui... je sais pas, ont toujours fait de la paye ou des choses comme ça, un petit peu plus qu'on trouve dans toutes les entreprises et pas forcément sous cette forme-là. Et là, on dit qu'on a une espèce de parcours de l'entrepreneuriat et on n'attend pas de tout le monde qu'on ait le même degré de spontanéité ou de...
Ou d'implication.
D'implication, exactement, oui.
Est-ce qu'il y a une obligation, par exemple ? Super, parce que, par exemple, on n'est pas obligé de participer à des groupes de travail, chacun s'implique à sa...
Non, c'est sur la base du volontariat.
Ok.
Mais enfin, c'est quand même hyper enrichissant, on se surprend, je trouve vraiment qu'on grandit. Moi, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais référente d'équipe.
Et finalement,
je suis arrivée, je me faisais toute petite et je regardais, quoi. Et, donc, voilà. Et en plus, je me serais jamais proposée moi-même, c'est les collègues qui ont...
D'où l'intérêt d'élection,
que j'étais capable de le faire et ça m'a donné des ailes un peu. Enfin, aujourd'hui, je me sens assez sûre de moi pour le faire parce que mes collègues ont eu confiance en moi, quoi.
Pour finir, une dernière question. Si une structure se demande si l'autogestion s'est fait pour elle ou si elle souhaite se lancer, quels seraient tes conseils, les points les plus importants selon toi ?
Je pense que vraiment le plus important déjà, c'est que tout le monde soit partant. Faut avoir l'adhésion de l'équipe, donc faut vraiment bien se préparer, bien en discuter. Je dirais que c'est bien, si on a connu autre chose, si on n'est pas né en autogestion, c'est bien de se faire accompagner. Et nous-mêmes, d'ailleurs, ça arrive, récemment, on a un petit peu modifié notre organisation sur la fonction employeur dans l'équipage.
Oui.
On s'est rendu compte que, des fois, il y avait un petit peu des malaises qui pouvaient être ressentis parce qu'on ne savait pas trop vers qui se tourner pour des choses, des situations un petit peu compliquées. Donc, on a revu notamment le mandat de référent d'équipe qui s'est élargi, c'est pour ça les...
Ok, l'augmentation du temps dédié.
Ouais, notamment. On a fait venir une personne qui nous a aidé à réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire pour nous l'autogestion et qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ce n'était pas. Et notamment sur la question du cadre et de la sanction,
qui sont
des questions un peu taboues généralement qu'on n'ose pas trop se poser.
Oui, parce que c'est important de dire que notamment le droit du travail s'applique comme toute entreprise, toute entité, et que donc par moment il faut prendre des décisions pas faciles, faire face à des différents.
Oui, okay. Je crois vraiment que. Enfin, c'est pas C'est pas la foire au slip.
L'expression est très parlante, on a compris.
Il faut vraiment qu'on pose ensemble les bases. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est acceptable, non acceptable, c'est quoi, comment on veut travailler ensemble. Mm. Écrire les rôles, parce que du coup, il y a plein de rôles donc, qui sont souvent tournants, mais du coup, voilà, qui sont là. C'est quoi le temps qu'on a envie de mettre à chaque chose. C'est quoi nos temps collectifs auxquels on a besoin que tout le monde soit là. Voilà, et être bien conscient que c'est jamais acquis et que il y a beaucoup de, c'est une démarche vraiment essai, erreur et on recommence. Là il y a plein de choses que je vous ai dit aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 6 mois, 1 an, qu'on a changé, et en fait on est dans l'amélioration continue, c'est ça qui est chouette. Et ça bouge avec les suggestions des personnes, en fait moi mon expérience de la fonction publique, c'est il y a quelque chose qui me convient pas, ben je fais avec et je râle.
Oui.
Et là chez Grapp, il y a quelque chose qui me convient pas, ben je propose mieux et on en discute et peut-être on expérimente et
on teste
et voilà, il y a beaucoup de ça. Là par exemple les cercles généraux de l'équipage, c'est une expérimentation depuis 6 mois. Pour l'instant, on trouve que ça fonctionne bien.
Ok.
Voilà, et donc il faut du temps pour tout ça. Mais bon, tout le temps qu'on n'a pas avec un manager à faire des points, etc., on passe à travailler ensemble à d'autres choses. Je ne sais pas si c'est plus coûteux en temps. On a eu du mal à calculer en fait ça. Mais quand même, ça prend du temps et c'est coûteux de s'interrompre dans ses tâches du quotidien pour venir prendre du recul et faire un peu des choses un peu transversales.
Mais si ça fonctionne mieux au quotidien, c'est gagnant. Et puis
Je trouve qu'il y a plus d'épanouissement dans son travail. Effectivement, on se découvre soi-même, puisque on n'a pas d'obligation de résultat, on a d'obligation. Enfin, on est là pour donner son meilleur, quoi. Autre conseil que je peux donner, c'est justement de soigner les recrutements.
Oui.
Alors pas seulement le choix de la personne, effectivement en vérifiant que cette personne, ça lui conviendra ce fonctionnement, mais aussi suivre la personne dans toute son arrivée. Là, on fait ce suivi jusqu'à 6 mois.
Toute cette intégration, ouais, c'est vraiment important.
Enfin, avant que j'arrive, j'ai su que ça avait été mis en place pas longtemps avant que j'arrive, mais parce qu'avant, il y avait eu des problèmes ou des personnes qui avaient eu du mal à s'intégrer. Donc l'intégration est très importante parce qu'il y a vraiment un truc très fort de culture commune. Et donc quand on arrive, ça peut faire un peu peur de se dire est-ce que je vais réussir à rentrer dans ce moule ou dans cette façon de faire. Donc faut vraiment soigner ces recrutements. Et moi, je trouve que ce mandat de référent d'équipe, c'est vraiment une réussite. Et c'est peut-être ce qui nous différencie aussi d'autres modèles autogestionnaires. C'est un peu un truc, je sais pas, pour l'instant je l'ai pas vu ailleurs et je trouve que ça marche bien. Et vraiment dire que le prendre soin, c'est pas une perte de temps, et d'avoir du temps dédié à ça, les gens du coup se confient plus ou viennent plus nous solliciter, et ça débloque des situations, quoi.
Ok, super. Donc pour résumer, on peut dire qu'il faut de l'envie pour se lancer dans l'autogestion, de la souplesse parce que ça demande de l'adaptation au quotidien, accepter d'y dédier du temps et aussi travailler et construire un cadre pour encadrer tout ça.
Oui.
Ok, super.
Et se faire accompagner, avoir des exemples. Il y a un collectif sur Lyon, le collectif autogestion, je crois.
Ok, donc, très intéressant.
Et ben nous, on peut partager notre expérience, on le fait s'il y a besoin, quoi.
Bah, c'est formidable. Merci Sandy.
Mais merci à toi.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle pépite.